Il est venu ici après plusieurs mois d'esclavage en Libye. Voilà. Il y a ici des gens qui l'ont accueilli au nom de la valeur des valeurs de la République, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Des choses pour lesquelles vous devriez vous battre, vous. Cet homme qui est là dans la gendarmerie, ce jeune homme, il n'a pas choisi d'être là. Il est ici par l'énergie du désespoir, après que son père a été assassiné, après que son frère a été assassiné. Il est sorti du Soudan à ce moment-là, il ne savait pas qu'il venait en Europe. Il ne savait pas, il n'a pas eu le choix.
Alors celui que vous entendez, c'est Marc Bourgeois, qui on va parler dans un instant, et qui est à l'origine de cette belle démonstration de solidarité vis-à-vis des migrants en France, alors qu'un petit village français qui s'appelle Faux-la-Montagne s'est mobilisé pour empêcher la déportation d'un jeune Soudanais que les autorités voulaient retourner vers l'Italie, d'où il était entré en Europe. Le jeune homme avait fui le Soudan, vous l'avez entendu dans l'extrait, sa famille a été décimée par la guerre, et il a été accueilli dans la famille de Marc Bourgeois. Bonjour, M. Bourgeois.
Oui, bonjour.
Racontez-nous l'histoire de ce jeune homme et aussi de toute la mobilisation d'un village, finalement, pour éviter sa déportation. Ça commence comment, cette histoire?
Ça commence avec des rencontres. Alors beaucoup de jeunes réfugiés, ou jeunes ou moins jeunes, enfin les réfugiés quand ils arrivent en France, ils sont, lorsqu'ils déposent une demande d'asile, ils sont orientés vers des centres. Ouais. Et après l'afflux important de réfugiés en 2015-2016, il y a eu des centres qui ont été implantés un peu partout en campagne, alors qu'avant ils étaient plus concentrés dans les villes. Mmh. Et ça a donné l'occasion à ce que des personnes des différents villages où ces centres étaient implantés puissent rencontrer des gens qui arrivaient. Et ici dans notre petite région, alors c'est pas simplement un village, hein, c'est beaucoup plus, hein, c'est beaucoup de villages concernés sur un petit territoire qui est une partie du plateau de Millevaches ici en Limousin. Ouais. Il y a une longue tradition d'accueil et de solidarité, et quand on a vu ces personnes arriver, il s'est naturellement produit des échanges et des tentatives de les intégrer à aux différentes activités qui avaient déjà lieu sur place. Ouais. Parce que ce qui est important quand on vient, qu'on connaît pas la langue, qu'on connaît pas le pays, qu'on est complètement déraciné, mais c'est de pouvoir en fait assez rapidement refaire des racines.
Alors ce jeune homme de 21 ans qui s'appelle Nordin Essak est arrivé chez vous quand au juste, il y a combien de temps?
Alors lui, il est arrivé il y a maintenant 8 mois. Il est arrivé au début du mois de décembre 2017. Ouais. Après avoir subi en fait un premier ce que le vocabulaire administratif français appelle pudiquement un transfert, donc une expulsion en fait, hein, de la France vers l'Italie. Ouais. Puisque en Europe les accords de Dublin veulent que la situation, la demande d'asile de quelqu'un qui migre, qui arrive en Europe, soit examiné par le premier pays d'entrée. Alors, la carte d'Europe fait que les premiers pays d'entrée, c'est la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Ouais. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui permet à des pays comme la France et comme d'autres de détourner un petit peu les yeux du problème, mais en renvoyant les migrants sans traiter leur demande vers des pays qui, eux, sont déjà submergés. Et voilà, donc quand ils sont renvoyés en Italie, ce qui a été le cas de Nourdine, mais ce qui est le cas de beaucoup d'autres, très souvent l'Italie n'a pas plus envie que ça non plus de s'en occuper, donc elle les renvoie ouais, vers la France. Et par contre, quand ils reviennent en France, la France ne s'occupe plus d'eux, ou en tout cas plus vraiment d'eux, va tenter de les renvoyer une nouvelle fois en Italie. Et pendant tout ce temps-là, ils deviennent sans domicile et sans ressources. Donc Nourdine et quelques autres sont ici hébergés dans notre village et puis dans des villages environnants depuis leur retour d'Italie pour leur éviter d'être à la rue.
Alors là, ce qui s'est passé et ce qui est assez remarquable dans ce cas-ci, c'est que généralement, on a beaucoup d'images, en fait, de gens qui craignent les réfugiés ou les migrants. Et dans votre cas, c'est vraiment l'opposé. Le village presque entier s'est mobilisé pour éviter qu'il soit redéporté une deuxième fois vers l'Italie. Vous vouliez le garder chez vous. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, alors c'est pas. En fait, il vit ici depuis 8 mois, donc il fait partie de notre, de notre communauté villageoise, de notre communauté de territoire. Donc c'est même plus forcément la défense d'un migrant. C'est en fait, on est en train de nous arracher l'un des nôtres et on se défend pour pas perdre l'un des nôtres. Et le fait qu'il soit soudanais ou le fait qu'il soit français, elle n'a plus vraiment beaucoup d'importance.
Bien sûr.
En fait, alors c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. Mais il y a une dimension très importante on nous arrache l'un des nôtres et donc c'est normal qu'on se défende. Après, indépendamment de ça, bien sûr, il y a une autre situation qui est une situation purement humaine, hein, c'est-à-dire que ce jeune homme de 21 ans qui a déjà été contraint à l'exil une première fois, il a recommencé à faire à construire sa vie ici, à avoir des liens, et donc le faire partir, c'est l'arracher une deuxième fois, le contraindre à un nouvel exil, alors que tout est ici réuni pour l'intégration et pour que ça se passe bien, et ça se passe déjà bien en fait, c'est déjà en route, donc on a affaire à, alors c'est pas simplement Nourdine, hein, c'est d'autres, hein, à des personnes qui sont déjà là, qui sont en voie d'intégration, qui sont en train de pouvoir se reconstruire après avoir vécu des épreuves abominables, une population qui est largement prête à les accueillir, qui lui fait de la place et qui est contente de les avoir, et donc on voit vraiment pas où est le problème, et en vertu de quoi et de quelle inhumanité on le renverrait vers un pays dont il ne connaît personne, dont il ne connaît pas la langue et qui en plus a pas plus envie que ça de s'occuper de lui.
Alors quel est son statut en ce moment? Ce que j'ai compris, c'est que on avait voulu le déporter, finalement il y a une décision qui a été prise vu justement la mobilisation des gens de votre région de le garder là, de vouloir le garder, de défendre justement ce jeune homme. Finalement, il est resté, il va pouvoir faire sa demande de statut de réfugié de là où il est, c'est ce que je comprends.
C'est ça. Donc actuellement, sa demande d'asile est en cours de dépôt puisqu'il a pour ça un dossier à faire et il est en situation maintenant de pouvoir le faire auprès de la France et la France va examiner sa demande et lui donner une réponse dans les délais qui sont ceux de la France, c'est-à-dire qui reste un peu long, hein, pour des gens qui sont déjà dans l'attente depuis très longtemps, mais qui devraient avoir une réponse dans un délai de 3 à 6 mois.
Est-ce qu'il s'est trouvé du travail?
Non, parce que pendant cette période-là, il n'a pas le droit de travailler.
Ah bon?
En France, quand on est demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler, en tout cas pas dans les 6 premiers mois, même dans les 9 premiers mois de la première demande d'asile en cours de traitement.
Alors, il vit de quoi? Il vit comment?
Il vit de la solidarité villageoise, hein. Donc il vit d'une part, moi je l'accueille chez moi et d'autres personnes sont concernées. Donc on est plusieurs à les accueillir chez nous. Donc ils ont un toit, ils ont à manger parce qu'ils partagent notre vie familiale, si j'ose dire. Et par ailleurs, il y a aussi des collectes qui sont organisées. Dans le village ou à l'occasion de concerts ou de repas de solidarité pour permettre que indépendamment de simplement avoir un toit qu'ils puissent avoir un minimum d'argent, même si c'est pas grand chose, mais qu'ils soient pas qu'il y ait quelque chose qui soit à eux et qui fasse qu'ils soient pas en permanente en situation de devoir demander pour n'importe quelle chose et qu'ils aient un peu d'autonomie parce que c'est extrêmement important de pouvoir acquérir vite de l'autonomie.
Voilà. En tout cas, félicitations pour votre geste parce que je trouve que c'est un beau signal que ça envoie en fait, que c'est pas en fait tous les villages qui auraient peut-être réagi de cette façon, mais vous l'avez fait de façon remarquable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Bourgeois.
Mais de rien.
Et félicitations. Et bonne chance à Nourdine.
Oui, mais malheureusement, il y en a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas.
Et d'autres, bien sûr.
Là, et voilà, qui auraient besoin de coups de main un peu partout. En fait, si tout le monde se mobilisait un peu, ça serait bien parce que c'est pas difficile, en fait.
Voilà. Merci, M. Bourgeois. Au revoir.
Merci, au revoir.
Marc Bourgeois est ce citoyen de Faux-la-Montagne qui est à l'origine, en fait, de cette espèce d'élan de solidarité à l'égard de ce jeune Soudanais. Écoutez, on voit tellement d'images de gens qui veulent les expulser, qui ne veulent pas qu'ils s'installent, qu'ils s'intègrent, que quand on voit une mobilisation comme celle-là, les policiers sont intervenus au gaz lacrymogène, pas parce qu'ils voulaient, pour protéger, en fait, pour éviter que les gens empêchent le jeune homme de partir. C'est le monde à l'envers et c'est un bel élan de solidarité. Et je pense que ça valait la peine de le souligner aujourd'hui.